VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Lydia Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Relations États-Unis et RDC, Washington estime que la publication de calendrier électoral en République démocratique du Congo établit un échéancier clair pour une transition du pouvoir, d'après Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU. Le point avec Anastasie Toudièche.
La publication d'un calendrier électoral, longtemps attendu, établit un échéancier clair pour une transition du pouvoir, a affirmé Nikki Haley dans son communiqué. De nouveaux retards et tentatives de garder le pouvoir ne feront qu'isoler les dirigeants de la RDC, a averti la diplomate. Pendant son passage récent à Kinshasa, elle avait déjà mis en garde les autorités contre une absence d'élection en 2018. Selon le calendrier électoral publié dimanche par la CENI, une élection présidentielle est prévue le 23 décembre 2018, en même temps que les législatives et les élections locales. L'accord de la Saint-Sylvestre prévoyait un scrutin au plus tard le 31 décembre cette année. L'opposition a rejeté la nouvelle échéance de fin 2018 et réclamé le départ du président Joseph Kabila, dont le mandat s'est achevé fin 2016.
Sahel, la toute première opération de la force conjointe G5 Sahel, qui mobilise quelques 500 soldats nigériens, burkinabés et maliens, s'est heurtée à des problèmes logistiques, mais pas insurmontables, selon le colonel-major nigérien Mahamadou Mounkaila, qui commande depuis Niamey la région centre du G5 Sahel. Le G5 Sahel, officiellement fondé en juillet et qui a pour mission une réponse militaire régionale coordonnée au groupe djihadiste transfrontalier, en est à ses balbutiements. La force conjointe comprend le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie. Son objectif, atteindre d'ici mars 2018 une capacité de 5000 hommes. Et puis au Mali, au moins une dizaine de morts, dont 5 civils, dans différentes attaques lancées dans le centre et le nord du pays par des groupes djihadistes contre les positions et convois de l'armée malienne et de ses alliés. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Le lundi 6 novembre 2017 a été un lundi noir au Mali, avec au moins une dizaine de morts dont des civils. Tôt le matin à Soumpi, un véhicule militaire a sauté sur une mine à l'entrée du camp de Soumpi, faisant un mort et 3 blessés graves. Cette attaque a poussé le premier ministre en visite dans la région de Tombouctou à reporter son déplacement dans le cercle de Niafunké. Ablaye Idrissa Maïga voulait aller voir surtout l'état sécuritaire du pays, encourager les administrateurs. Tout cela en vue de la tenue des élections régionales de décembre prochain. 30 minutes après, entre Kona et Doro, au centre du pays, un convoi de l'aménagement escorté par les FAMA est tombé dans une embuscade. Le bilan est de 5 morts, dont un militaire et 4 civils. À Ansongo aussi, région de Gao, un minibus a sauté sur une mine, bilan 4 morts, tous des civils. Les passagers partaient pour la foire hebdomadaire de Fafa. À Fatoma, un notable a été froidement assassiné à son domicile. La dernière attaque de la journée s'est passée à Gossi. Bilan, un soldat de la garde nationale a été tué, un autre blessé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Afrique australe, le vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, considéré comme l'un des successeurs potentiels du président Robert Mugabe, a été limogé. Une annonce qui intervient au lendemain de la déclaration de la première dame du pays, Grace Mugabe, qui a ouvertement exprimé sa volonté de succéder à son mari. Plus de détails avec Abdourahman Dia.
Le ministre de l'Information, Simon Kaya Moyo, a annoncé la nouvelle, indiquant que le président Mugabe avait exercé son pouvoir de relever avec effet immédiat le vice-président de ses fonctions. Emmerson Mnangagwa, 75 ans, surnommé le crocodile, faisait face depuis des semaines à de vives critiques de proches du président, dont son épouse Grace Mugabe. Il lui reprochait de prétendre avoir été victime en août dernier d'une tentative d'empoisonnement de la part de la première dame. Madame Mugabe a vigoureusement démenti. Pour le ministre de l'Information, le vice-président a systématiquement et constamment fait preuve de manque de loyauté, de manque de respect, de malhonnêteté et de manque de sérieux. Son départ intervient 24 heures après que Grace Mugabe a déclaré devant des militants du parti au pouvoir qu'elle était prête à succéder à son mari.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique du Nord, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a affirmé à quelques mois de la présidentielle de 2018 qu'il n'avait pas l'intention de briguer un troisième mandat en 2022. Il a fait cette déclaration dans une interview diffusée lundi soir sur la chaîne américaine CNBC. Anne Albertson.
Après son arrivée au pouvoir, M. Sissi avait éliminé toute opposition, islamiste comme laïque et libérale. Depuis, il dirige le pays d'une main de fer, s'attirant de nombreuses critiques à l'étranger au sujet du respect des droits de l'homme. Le président égyptien, ex-chef de l'armée, avait renversé en 2013 son prédécesseur, le président issu de la confrérie des frères musulmans, Mohamed Morsi, conduisant une répression impitoyable contre ses partisans. Il avait ensuite été élu en 2014 avec 96,9% des voix dans une élection sans opposant sérieux. Monsieur Sissi, élu pour un mandat de 4 ans, devrait se présenter de nouveau à la prochaine présidentielle prévue en 2018. À ce jour, l'avocat militant des droits de l'homme Khaled Ali est le seul candidat à s'être déclaré face à Monsieur Sissi pour l'élection de 2018.
Maroc, le roi Mohamed VI a affirmé lundi qu'aucun règlement du conflit du Sahara occidental n'était possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, rejetant ainsi toute solution autre que l'autonomie. Le royaume chérifien maintient son engagement d'adhérer à la dynamique actuelle voulue par Antonio Guterres, le patron de l'ONU, et a coopéré avec son émissaire personnel, l'ancien président allemand Horst Köhler, a souligné dans un discours télévisé le souverain marocain à l'occasion des 42 ans de la Marche verte. Ici aux États-Unis, la fusillade de dimanche soir au Texas continue de dominer l'actualité. Pour rappel, un ancien militaire de 26 ans a ouvert le feu dans une église, tuant 26 personnes et faisant plus de 20 blessés. Cette nouvelle tuerie pose encore une fois la question de la vente et du port des armes aux États-Unis. Pour une réaction, Claire Morin-Gibault a joint le professeur spécialiste des États-Unis, Corentin Célin.
Une première réaction d'effroi et de penser évidemment pour les victimes. Ensuite, quand on prend un petit peu de recul pour analyser, on se rend compte qu'aux États-Unis, désormais, c'est sur un rythme quasiment trimestriel, tous les 3 mois et même maintenant tous les mois, que se produit une attaque par arme à feu meurtrière. Et on note que s'il n'y a pas d'augmentation flagrante du nombre de tueries par arme à feu rapportées à la population américaine, il y a par contre une augmentation incontestable depuis une dizaine d'années, et la tuerie de Virginia Tech, de la mortalité. Ce sont des attaques de plus en plus meurtrières, et on peut faire le lien, même s'il est parfois contesté, avec la prolifération des armes semi-automatiques, qu'on appelle parfois improprement les armes d'assaut, des armes semi-automatiques qui sont impliquées désormais quasiment dans toutes les tueries, que ce soit à Sandy Hook en 2012, que ce soit à Orlando, que ce soit là encore au Texas. Et évidemment, on se demande comment des personnes dérangées peuvent accéder aussi facilement à des armes semi-automatiques.
Avez-vous été surpris par la réaction de Donald Trump qui, au contraire, a bien affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un problème de loi sur les armes ?
Non, absolument pas. Le président Trump est tout à fait dans la lignée de sa campagne de 2016 et de ses premiers mois de président. Il a été élu sur une ligne très simple qui lui a valu d'ailleurs le soutien éperdu du grand lobby des propriétaires d'armes, la NRA. En effet, Donald Trump considère que le droit de porter une arme à feu et de posséder une arme à feu pour sa défense est un droit protégé par la Constitution, ce qui est le cas depuis l'arrêt Elol de la Cour suprême en 2008, et que ce droit ne peut être en aucun cas remis en question. Par ailleurs, Donald Trump considère qu'au contraire, il s'en était fait l'écho, on s'en souvient peut-être de manière un peu particulière en France au moment des attentats du Bataclan, il considère qu'au contraire, il faudrait davantage d'armes pour l'autodéfense des bons citoyens face à ceux qu'il considère, comme dans le cas ici présent au Texas, comme de dérangés mentaux qui s'emparent d'armes pour attaquer. Donc une réaction tout à fait conforme de la part d'un président qui a été élu sur une ligne permissive quant aux armes à feu et qui défend le droit non seulement de posséder des armes à feu, mais qui défend aussi leur diffusion dans la société américaine.
Corentin Célin, spécialiste des États-Unis. Et pour terminer, la Corée du Sud va acheter aux États-Unis des armements pour des milliards de dollars afin de faire face aux menaces de la Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire. C'est ce qu'a déclaré le président américain Donald Trump à l'issue d'un sommet avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in à Séoul. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.